Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio Agora Côte d'Azur. Pour notre émission mensuelle, naturellement, on se retrouve dans les studios d'Agora Côte d'Azur, qu'on remercie. Aujourd'hui, je serai tout seul pour la présentation de Denis Laspeza. Gérard Piel ne sera pas avec nous, hein, quelques petits problèmes de santé, mais il se retrouvera le mois prochain. Nous avons aujourd'hui, j'ai avec moi Rémi Quinton, qui est membre du MNLE 06 et responsable au niveau national du MNLE, est un grand spécialiste des transports. Bonjour Rémi.
Bonjour Denis.
Bien,
bonjour,
donc aujourd'hui, vous avez bien compris, nous allons faire l'intégralité de notre émission sur le secteur des transports, qui est un sujet que nous avons déjà abordé, mais que nous aborderons encore, puisque c'est un sujet important d'une manière générale, lié à l'environnement, mais c'est un sujet aussi qui nous touche particulièrement dans la région PACA, et plus particulièrement dans le 06. Donc Rémi, on va parler de transport, hein. C'est souvent un aspect qui est un peu oublié quand on parle d'écologie et d'environnement, alors que c'est pourtant un secteur majeur, hein, puisque d'une part il concerne la vie de tous les jours, hein, pour les gens, pour se déplacer, quand on va au travail, quand on va voir sa famille, quand on part en vacances, et ça conditionne bien évidemment l'aménagement du territoire. Mais c'est majeur pour l'environnement, car les transports, c'est aussi 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. 40%, c'est important. Et c'est bien un secteur sur lequel il n'y a pas de progrès depuis des années, où les émissions continuent d'augmenter, faute de priorités politiques suffisantes. Les transports, on l'oublie souvent, mais c'est un pourcentage vraiment très important dans les gaz à effet de serre. Alors c'est bien pour ça qu'on a décidé de consacrer cette émission, hein, et c'est aussi car le sujet est venu discrètement s'insérer dans une actualité sociale par ailleurs bien chargée, hein, et j'espère que les auditeurs et les auditrices de Radio Agora se retrouvent régulièrement dans la rue pour manifester contre ce projet antisocial qui est ce projet des retraites. Par ailleurs, on a entendu la Première ministre Elisabeth Borne qui a annoncé 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Donc c'est le 24 février dernier. 100 milliards d'euros, ça surprend et ça interroge. Avant ça, on a entendu fin novembre 2022 le président Macron nous promettre des RER dans 10 métropoles sur YouTube. Alors on va essayer un peu de décortiquer un peu tout ça, parce que on a malheureusement l'habitude avec ce gouvernement à beaucoup d'effets d'annonce, et puis on nous présente une espèce de grosse usine à gaz, et puis la suite, on voit pas trop ce qui se passe. Alors mon invité donc aujourd'hui, hein, c'est Rémi Quinton, je l'ai présenté tout à l'heure, qui est responsable de la commission transport au MNLE, et c'est un militant du MNLE 06, comme je vous l'ai dit. Rémi, tu es vice-président aussi, hein, je crois, de l'association Départ, une association qui milite depuis des décennies pour la nouvelle ligne de train entre Marseille et Nice. Alors, Elisabeth Borne a fait son annonce de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire lors de la remise d'un rapport du COI, Conseil d'orientation des infrastructures. Alors, explique-nous un peu ce qu'il en est de ces 100 milliards d'euros.
Oui, on va commencer déjà par le COI. Donc, du coup, tu l'as dit, c'est le Conseil d'orientation des infrastructures. C'est un organe consultatif qui a été créé en 2019 par la LOM. La LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités, et qui est composée de 17 membres, donc c'est des parlementaires et des élus locaux, et c'est un conseil qui est rattaché au ministère des Transports et qui a pour but de faire des préconisations sur les politiques d'investissement dans la mobilité et les transports. Donc typiquement, ce que fait ce COI, c'est qu'en début de mandat présidentiel, c'est qu'il propose une programmation des investissements, alors sur 1, 2 ou 3 ou 4 quinquennats selon son ambition. Puis en fin de mandat, il fait un bilan. C'est une instance qui a été pérennisée donc dans la loi, comme je l'ai dit, en 2019, mais qui auparavant avait déjà eu des prédécesseurs. Donc il y avait eu en 2012 une commission Mobilité 21 qui était présidée par Philippe Duron, un parlementaire. Et en 2018, il y avait déjà eu quelque chose qui s'appelait le COI, même si ce n'était pas encore officialisé dans la loi que ça existait. Et c'était toujours présidé par Philippe Duron. Actuellement, ce COI, il est présidé par un élu de l'Est, David Valence, et des représentants qu'on connaît bien un peu par chez nous. On a les parlementaires Louis Nègre et Philippe Tabarot. Et donc, le 24 février, ils ont remis leur rapport à Elisabeth Borne, donc stratégie 2023-2042 et proposition de programmation. Bon, en fait, en réalité, le rapport, il était prêt plus tôt, mais tu l'as dit, avec l'actualité des retraites, ils ne l'ont pas sorti tout de suite, même s'il y a eu des fuites dans la presse. Et ce rapport, c'est quand même un gros rapport qui est assez intéressant, qui est assez consistant, parce que c'est 158 pages de synthèse, 142 pages d'annexes, et rien que le résumé, c'est 23 pages. Et c'est intéressant parce que dedans, il y a quand même des choses assez cinglantes, qui n'étaient pas forcément dans les rapports précédents, et y compris par rapport au bilan des politiques passées. Ça peut s'expliquer par le fait que avant on avait des majorités homogènes au Parlement, ça permettait de s'entendre entre gens qui étaient déjà d'accord, que le gouvernement s'entende d'abord avec eux avant de dire les choses publiquement. Là, comme on a des choses qui sont beaucoup plus ouvertes au Parlement, et ben finalement tout a été mis sur la table dans ce rapport, et c'est peut-être ça qu'on...
Oui, donc un rapport énorme, 158 pages. Bien évidemment, on va pas les présenter en détail dans cette émission, mais je crois que tu as fait l'effort de les lire et ces pages-là et de comprendre un petit peu. Et est-ce que tu peux nous faire un résumé? Alors, on peut pas dire trop concis, parce que il y a des choses importantes dans ce rapport-là, et je crois que, vu l'importance du sujet, il faut passer un petit peu de temps.
Alors, si on refait juste un peu d'historique de comment il est né, ce rapport, à la fin du quinquennat précédent, donc ce COI, il avait déjà fait un premier rapport où, en gros, Ils sont allés voir les gens dans les territoires, les élus, les préfets, etc. Et ils ont demandé, au niveau des infrastructures de transport, pour le prochain quinquennat, qu'est-ce que vous attendez? Donc les élus, ils ont répondu, ils ont fait leur liste de courses, en quelque sorte. Et à la fin, ils ont fait l'addition et ils ont dit, il y en a pour 111 milliards d'euros pour chacun des deux prochains quinquennats. Et le rapport du COI qui a été rendu, là, au mois de février, il suit une demande du ministre des Transports, Clément Beaune, et dans sa lettre de mission, il avait donné un cadrage budgétaire, donc qui correspond à ce qui est dans la loi, qui est de 17 à 18 milliards d'euros pour le prochain quinquennat. Donc on voit bien qu'en fait, là, toute la difficulté de l'exercice, c'est d'un côté, il y a des gens qui demandent 111 milliards d'euros, et de l'autre côté, il y a le gouvernement et la loi qui disent bon, il y a 18 milliards d'euros. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui allait coincer, qui effectivement a coincé. Et donc, dans ce rapport du COI, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des choses un peu cinglantes, c'est que d'emblée, le Conseil d'orientation des infrastructures dit qu'avec ce cadrage budgétaire, on ne peut pas respecter les engagements de la France, que ce soit le report modal, la transition écologique, la réduction des gaz à effet de serre, etc. Parce qu'on ne peut même pas maintenir à niveau les réseaux existants avec des budgets aussi faibles. Quand on dit les réseaux existants, c'est les réseaux ferroviaires, les réseaux routiers, les réseaux fluviaux. C'est-à-dire qu'on sait que si on se contente de cette enveloppe budgétaire, les choses vont forcément aller en se dégradant. Donc le rapport prévoit quand même un scénario qu'il a appelé cadrage budgétaire, de façon un peu péjorative, et dans lequel il décrit comment on va laisser vieillir tous les réseaux de transport, et comment on va reporter à la fin de l'Inglin la modernisation du réseau ferroviaire. Et sachant qu'évidemment, dans ce scénario-là, on va repousser d'au moins un quinquennat tous les projets, même ceux qui pouvaient être dans la loi d'orientation des mobilités de 2018. Donc tout financeur confondu, ce scénario-là, il pèse 55 milliards d'euros pour le quinquennat actuel et 66 milliards d'euros pour le suivant. Et clairement, le rapport conclut qu'avec ce scénario-là, le quinquennat actuel serait un quinquennat perdu pour les infrastructures. Et pour une fois, les rapporteurs, ils n'ont pas eu peur d'effaroucher Bercy. Et on sent quand même que les urgences écologiques, etc., ça finit quand même par arracher certains au moins un peu de leur dogme antérieur. Et au moins, ça encornérise d'autres, ceux qui sont un peu trop près de leur sou, par rapport à la transition écologique.
Oui, Rémi, si je comprends bien, on perd encore un quinquennat. Le réseau ferroviaire a besoin de modernisation, de développement. Je fais un parallèle avec un autre réseau, le réseau électrique, où là aussi, je dirais qu'on a perdu plus qu'un quinquennat. On a perdu des décennies, on a perdu du savoir-faire, on a pris du retard. Ça fait quand même lourd, la gestion des transports, comme la gestion des sujets très importants, sont actuellement incroyablement maltraité. Et tout ce retard ne se rattrape pas en 5 minutes. Et d'ailleurs, on n'est pas dans le sens de le rattraper, puisque le rapport dit qu'il y aurait besoin de plus de 100 milliards et on répond 10 ou 20 milliards. Donc, c'est vraiment une gestion calamiteuse, quoi.
Effectivement. Alors, après, donc ça, c'est ce scénario-là, le rapport recommande de surtout pas le retenir, de ne pas retenir ce que lui avait demandé le gouvernement. Et donc, il propose, c'est classique dans les rapports, de toujours proposer 3 scénarios, bas, milieu et haut, et puis de dire, faut retenir celui du milieu. Donc, le fameux scénario du milieu, on va dire, dans ce rapport-là, il est intitulé planification écologique. Alors, c'est peut-être un peu pompeux. Et déjà, lui, il prévoit 85 milliards d'euros, puis 90 milliards d'euros d'investissement. Donc, plus que la moitié de plus que le précédent, pour tous les transports, pas que pour le ferroviaire. Et c'est justement dans ce scénario-là qu'on va retrouver, si on extrapole jusqu'en 2040, les fameux 100 milliards d'euros pour le ferroviaire dont avait parlé Elisabeth Borne. Alors ce scénario-là, il insiste beaucoup sur ce qu'ils appellent des programmes récurrents, donc notamment la modernisation des réseaux. Ça rentre assez dans le détail. Par contre, il est beaucoup plus prudent sur ce quand il s'agit de projets de développement, alors que ce soit d'un côté les LGV, les lignes à grande vitesse, ou les nouvelles autoroutes. Et ça, c'est un peu contradictoire avec ce qu'avait pu annoncer le gouvernement à la fin de son précédent mandat, avec Jean Castex qui avait annoncé l'accélération de plusieurs projets de LGV, notamment Bordeaux-Toulouse. Et là, le Conseil d'orientation remet en quelque sorte un coup de frein, donc c'est toujours des machins, c'est toujours un peu du stop and go. Et enfin, donc, il y a un dernier scénario, donc un troisième scénario dans ce rapport, qui est intitulé « Priorité aux infrastructures » et qui, lui, s'élève quasiment à 100 milliards d'euros par quinquennat. Et donc, si on se rapporte à ce que je disais tout à l'heure, les demandes exprimées par les territoires qui étaient à 111 milliards d'euros, en gros, ce scénario-là, il permet d'y répondre. Et en gros, il s'agit de financer tout ce qui est techniquement finançable. Après, il y a des gens qui attendaient des choses qui ne sont pas possibles techniquement, mais tout ce qui est possible financièrement serait financé.
Accord à côté sur. Donc scénario intermédiaire, c'est là que l'on devrait retrouver les 100 milliards d'euros, tu viens de le dire. Pour le ferroviaire, parce que il faut bien, tu fais bien la part quand on parle de ferroviaire, de réseau ou de transport d'une manière générale. Bon, alors ces 100 milliards, on y croit ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait au moins ça. Le rapport, il est clair là-dessus. Et ce n'est pas le premier. Ça suit de nombreux audits qui ont posé cette conclusion-là. Maintenant, poser cette question, est-ce qu'on y croit ou pas ? C'est un peu y répondre. Et quand on entend un chiffre comme ça, 100 milliards d'euros, c'est toujours très politique d'avoir des chiffres ronds comme ça. Ça marque les esprits. C'est 100 milliards d'euros, c'est 50% de nucléaire. On fait des chiffres ronds et puis... Et 100 milliards d'euros, on avait déjà entendu le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, demander pendant la présidentielle un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Sauf que lui, il le demandait d'ici 2030. Là, dans les annonces d'Elisabeth Borne, c'est d'ici 2040. Donc comme on est en 2023, ça veut dire qu'on va aller deux fois moins vite. Déjà, il y a une première anguille sous roche. Et puis, tout dépend de quoi on parle. Parce qu'en fait, quand on parle d'argent pour le ferroviaire, des fois, on s'y perd un peu et on peut aussi avoir la mémoire courte. Je rappelle, par exemple, pour l'anecdote, que dans le précédent quinquennat, Jean-Baptiste Djebbari, donc c'était l'ancien ministre l'ancien ministre des Transports, qui avait dit, qui avait même osé dire que personne n'avait investi autant que lui dans le train, et il avait dit 75 milliards d'euros. Donc comme quoi, personne n'avait trop compris d'où ça venait, mais bon, donc comme quoi presque les 100 milliards d'euros, c'est comme s'ils n'étaient pas si loin que ça. Bon, en fait, quand on creusait un peu, on s'apercevait que pour arriver à ce montant-là, il avait vraiment un peu additionné les choux et les carottes, notamment il avait additionné la reprise de la dette de la SNCF, alors que ce n'était pas des moyens nouveaux. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment eu de moyens nouveaux pour le ferroviaire. Il avait aussi additionné le plan de relance qui avait suivi la crise du Covid. Mais là encore, ce n'était pas des moyens nouveaux pour le ferroviaire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en temps normal, l'entretien du réseau ferroviaire, il est financé par les péages que payent les TGV sur le réseau. Et pendant la crise du Covid, il n'y a eu aucun TGV qui a circulé, donc il n'y a pas eu de péage, donc il y avait 0 euro de recettes pour financer le réseau ferroviaire. Et donc, comme il y avait déjà des travaux, heureusement, un minimum qui était déjà prévu, il ne s'agissait pas de dire on ne peut plus les payer, donc on annule tout. Et donc, ils ont dit on fait le plan de relance ferroviaire pour dire que ce qui était auparavant payé par les péages des TGV, en 2020, ce serait payé autrement, mais il n'y a pas eu d'augmentation des moyens. Donc, revenons à aujourd'hui. Actuellement, la régénération du réseau, ce qu'on appelle la régénération du réseau, c'est changer les rails, les traverses, la caténaire, le ballast. Tout ça, c'est 2,8 milliards d'euros par an. Et il y a déjà plusieurs audits, tu le disais pour l'électricité, c'est pareil, il y a déjà plusieurs audits qui ont déjà montré que c'était insuffisant pour stopper le vieillissement du réseau. Donc. Et il faut aussi noter que cette somme-là, c'est sur le périmètre, on va dire, du réseau principal. Ça n'inclut pas tout ce qu'on appelle les petites lignes. Et tout le monde s'accorde à dire que même sur le réseau principal, il faudrait déjà 1 milliard d'euros de plus par an, quasiment 4 milliards d'euros. Et qu'il faut encore des enveloppes supplémentaires si on veut aller au-delà de la simple régénération, mais aussi moderniser le réseau. Donc le rapport du COI, là, dans son scénario intermédiaire, il vise une cible de 5 milliards d'euros par an, avec une montée en charge progressive, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas qu'une question d'euros, il faut aussi qu'il y ait les moyens matériels et humains derrière, et de production. Bon, mais finalement, si tu fais les comptes de ça, de 5 milliards d'euros pendant une grosse quinzaine d'années, plus des commandes de nouveaux matériels, plus ce qui va se passer dans les CPER, etc., finalement, 100 milliards d'euros d'ici 2040, oui, on les atteint. Mais c'est pas quand on décompose un peu ce que c'est finalement pas une somme aussi extraordinaire que ça, parce que quand elle a été annoncée, on a l'impression qu'elle va être dépensée le lendemain, mais non, on parle de quelque chose d'ici 2040. Et puis en plus, là où il y a quand même une autre anguille sous roche, c'est que, bon, là, Elisabeth Borne nous annonce 100 milliards d'euros. C'est écrit dans le rapport, bon, ok. Mais concrètement, aujourd'hui, on a quoi? On n'a pas du tout ces 100 milliards d'euros, on n'a pas non plus ces 5 milliards d'euros par an. Juste un petit rappel, discrètement, au moment de l'élection présidentielle, donc en 2022, c'est pas il y a si longtemps, il a été validé un contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau, donc SNCF Réseau, c'est ceux qui gèrent le réseau ferroviaire, qui court de 2021 à 2030. Et pour l'instant, la réalité, c'est ce contrat-là. Ce n'est pas des promesses qui ont été faites, c'est ce contrat-là. Et ce contrat-là, il a été fixé à 2,8 milliards d'euros par an pour la régénération. Et pire que ça, c'est que ces 2,8 milliards d'euros, c'est hors inflation. Donc comme on sait qu'actuellement, on a l'inflation de 5 à 10% par an, ça veut dire qu'avec le temps, 2,8 milliards d'euros d'aujourd'hui, dans 10 ans, ça ne pèsera plus grand-chose. Qui est actuellement prévu, là, si on n'écoute pas les promesses, qui est actuellement prévu, ce qui a actuellement été décidé il y a moins d'un an, c'est de baisser les moyens à consacrer au réseau. Là où il y a encore une troisième anguille sous roche, je dirais. Quand il y a eu la discussion budgétaire au Parlement, il y a des oppositions qui sont au courant de ces problèmes de financement du réseau et qui ont proposé un amendement pour dire, on va augmenter, alors je ne sais plus c'était quoi le montant, mais tu avais dit, je crois que c'était quasiment les 1 milliard d'euros, ils ont fait un amendement pour augmenter de 1 milliard d'euros le financement du réseau ferroviaire. Et l'amendement a été adopté. Temporairement, l'amendement a été adopté. Mais le gouvernement a réussi, alors, par je ne sais plus quel artifice de procédure, à revenir dessus en disant oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça qu'on a prévu. Et de toute façon, même si on donnait 1 milliard d'euros à la SNCF, il ne saurait pas quoi en faire. Ça, c'est le ministre qui avait eu le culot de dire ça. Là, maintenant, soudainement, on a l'impression que tout le monde est touché par la grâce et qu'ils disent bon, bah, finalement, maintenant, c'est 100 milliards d'euros. Bon, prudence. Oui, il est faux, mais ce n'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire que, qu'ils vont vraiment le faire. Maintenant, je pense quand même qu'on peut quand même apprécier ce moment où, au moins dans les paroles, le ferroviaire à la côte. Ça n'a pas toujours été le cas. Et parce que oui, pour moi, pour nous, c'est une évidence que le ferroviaire, que le train, c'est une solution pour la transition écologique. C'est un mode de transport collectif, ça consomme peu d'énergie, ça déplace beaucoup de voyageurs. Les emprises au sol sont quand même limitées par rapport à d'autres systèmes. Et de surcroît, l'énergie de traction des trains, c'est principalement l'électricité. Et donc en France, c'est le nucléaire et l'hydraulique. Et donc ça veut dire que c'est à la fois peu d'énergie. Mais comme c'est du nucléaire et de l'hydraulique, c'est quasiment zéro émission de gaz à effet de serre. Je pense que tu connais ça encore mieux que moi. Alors qu'à l'inverse, le modèle dans lequel on est actuellement, du tout bagnole, il est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Et tu l'as dit en introduction, si on additionne tout, on est quasiment à 40% des émissions de gaz à effet de serre, plus toutes les autres pollutions. On sait bien que si la voiture électrique, à terme, elle est indispensable, elle ne pourra pas remplacer toutes les voitures actuelles. Et donc, on a besoin d'autres solutions. Et parmi celles-ci, on a besoin du train, de beaucoup, beaucoup de trains.
Effectivement, ce que l'on constate dans cette partie-là que tu viens de présenter, qui est une partie, je dirais, financière, c'est qu'au niveau de l'État, au niveau du corps, on a des comités qui étudient ces questions-là sur le long terme, parce qu'on ne peut pas faire autrement quand on parle d'entretien ou de création de réseaux ferroviaires. On ne travaille pas à la petite semaine. C'est des années et des années à l'avance qu'on est obligé de faire des plans, qu'on est obligé de prévoir les financements. Moi, je me rends compte, au travers de ce que tu as dit, c'est que le gouvernement travaille à la petite semaine. C'est-à-dire, il ne voit pas plus loin que 2030, et quand on parle de budget, ça en devient ridicule, ce qu'il propose. Donc, c'est vrai qu'au-delà des effets d'annonce, il faudrait exiger de ce gouvernement qu'il se préoccupe, je dirais de ce gouvernement, de ce qui était avant, parce que là aussi, tout n'est pas parfait. Mais aussi pour ceux qui vont suivre, c'est qu'on ne traite pas les transports, et dans les transports, le transport ferré, à la légère, que ce soit dans le temps et avec l'argent. Maintenant que cette première partie financière, tu nous as bien montré un peu ce qu'il en était, est-ce que tu peux nous donner, rentrer un petit peu dans le détail technique de ce que présente ce rapport-là ?
Oui, alors, le rapport, il parle beaucoup, pour le réseau ferroviaire, de modernisation et régénération. Alors, ce qu'on appelle la régénération, c'est remettre à neuf les différents composants de l'infrastructure ferroviaire. Je lui dis, la modernisation, ça consiste à faire mieux que ce qui existait, même au moment où c'était neuf. Donc en quelque sorte, c'est du développement. Et une autre façon aussi de développer le réseau ferroviaire, c'est de l'étendre en kilomètres de ligne. Donc par exemple, soit en rouvrant des petites lignes. Donc désormais, dans le jargon officiel, ça s'appelle des LDFT, lignes de desserte fine du territoire. Bon, encore autre solution, c'est de construire de nouvelles lignes ferroviaires comme les LGV. Sur ce qui est des projets de modernisation du réseau ferroviaire, il y en a deux en France pour moderniser l'exploitation. Alors, ça s'appelle la CCR et le RTMS. La CCR, ça signifie commande centralisée du réseau. Donc ça, c'est un gros projet qui a déjà partiellement commencé, mais qui se déploie beaucoup trop lentement par rapport aux enjeux. Et ça consiste à piloter, je vais essayer de le dire de façon simplifiée, mais tous les aiguillages du réseau depuis un nombre réduit de centres. Donc à terme, en France, il y en aurait une vingtaine, répartis géographiquement, et au lieu de milliers actuellement, quoi. Et donc c'est des sortes de super tours de contrôle, Et ça permet que sur un même lieu, sur un même plateau de technique, en quelque sorte, vont se retrouver toutes les équipes d'aiguilleurs, d'agents d'exploitation, etc., pour que leur communication soit plus fluide, plus rapide, tout est décidé au même endroit, les décisions prises sont cohérentes, ça évite de se passer 14 coups de fil pour la même chose, de mieux gérer les situations de crise, etc. Voilà. Donc ça, c'est le projet CCR. Ça suppose, par contre, d'avoir des aiguillages quand même qui soient suffisamment neufs pour qu'ils puissent être pilotés informatiquement et de ne pas être, comme on va dire, comme au siècle dernier, avec une personne dont le travail est de manœuvrer effectivement l'aiguille physiquement, je dirais. Et donc, ça permet aussi de se débarrasser de vieilles technologies qui peuvent poser un réel problème, parce que sur certaines lignes, il faut savoir qu'on a des technologies qui sont à ce point anciennes que même les gens qui les connaissent, finalement, il y en a de moins en moins, et ça devient très compliqué à faire fonctionner. Et ça permet aussi à la fois des gains de productivité, de rendre plus intéressants les métiers, ce qui est aussi un enjeu, parce qu'actuellement, sur les métiers de tous les gens qui exploitent le réseau, il y a quand même des difficultés de recrutement pour la SNCF, qui signifie que même à terme, s'il manque du personnel, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut sabrer des lignes et dire telle ligne, on ne peut plus la faire fonctionner parce qu'on n'a plus trouvé le personnel adéquat, donc on la ferme parce qu'il n'y a plus les moyens de fonctionner. Donc il faut faire les projets de modernisation à temps. Le deuxième projet de modernisation, donc, c'est l'ERTMS. Bon, je vais vous épargner ce que signifie le sigle. Mais donc c'est une nouvelle signalisation qui est européenne, qui est plus moderne, qui est plus digitale. Et notamment, elle permet de faire circuler davantage de trains sur une même voie. Donc forcément, c'est intéressant. Hein. Et elle permet de l'interopérabilité des trains en Europe entre les différents pays. Bon, en tout cas, ça, c'est sur le papier théorique. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une technologie qui, du coup, est moins coûteuse à entretenir que les systèmes actuels. Donc juste parce que, par exemple, la technologie actuelle, c'est d'avoir les feux de signalisation le long des voies. Donc ça fait des grands ouvrages le long des voies qu'il faut entretenir, qui vieillissent, qui rouillent, etc. Et là, en fait, tout ça est remplacé par un système qui est le long des voies, mais sans équipement physique vraiment visible, on va dire, et qui est à bord des trains. Donc il y a une communication entre la voie et le train. Aujourd'hui, en France, on n'a que les dernières LGV qui ont été équipées de ce système-là. Et il y a deux projets de déploiement en France. Donc il y en a un sur la première LGV entre Paris et Lyon, donc de déploiement de l'ERTMS. Et l'autre projet, il est chez nous, hein, c'est sur la ligne entre Marseille et Vintimille. Il y a un projet qui s'appelle HPMV, Haute Performance Marseille-Vintimille, donc on peut dire maintenant qu'il est financé et qu'il est quasiment en cours d'exécution. Donc il va être expérimenté au départ sur la ligne entre Cannes et Grasse, et puis il va être déployé progressivement de Vintimille à Cannes, puis après, par étapes successives, jusqu'à Marseille.
Oui, très intéressant. Même si il y a beaucoup de logos, ce que l'on retient, c'est que les choses semblent avancer, en tout cas dans la réflexion, quoi. Hein. C'est une bonne chose. Et on va reprendre cette discussion dans quelques minutes. À tout de suite.
And if you want a doctor, I'll wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. A sleeper moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
Bien, chers auditeurs de Radio Agora Côte d'Azur, auditeurs, auditrices, nous nous retrouvons pour la suite de notre sujet, un sujet vaste, technique, financier, qui est le sujet des transports, avec Rémi Quinton, qui est un grand spécialiste au MNLE des transports. Donc, nous avons vu toute la partie financière. Rémi nous a expliqué un peu ce qu'est les entretiens des réseaux, les créations de réseaux, tout ça un peu pour nous familiariser. Alors, on va continuer, Rémi. Le président Macron, il avait parlé de RER dans les métropoles sur YouTube. C'est dans le rapport du COI, les RER.
Il a repris à son compte une idée qui était là bien avant lui. Déjà, les RER, depuis 2018... C'est un objectif qui fait partie de la loi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé en 2022. Donc, maintenant, il serait même temps de passer à la concrétisation. L'idée des RER, c'est de mieux utiliser les infrastructures ferroviaires dans les métropoles, en partant du principe que souvent, elles existent déjà. Donc, de faire circuler davantage de trains sur ces infrastructures, de créer de nouveaux points de dessert, enfin, donc de nouvelles gares, pour qu'on puisse se déplacer au sein des métropoles en train. Alors, pas que en train, c'est un complément du reste, mais que aussi le train puisse servir à se déplacer. Et le but aussi, c'est que quand on voyage depuis l'extérieur de la métropole vers la métropole, de pouvoir en quelque sorte arriver directement au bon endroit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'une seule gare, mais qu'il y ait plusieurs gares possibles. Donc un peu à l'image de ce qu'on a dans les RER en Ile-de-France. Il n'y a pas qu'une seule gare dans Paris. Et donc une grande idée qui est derrière ça, c'est ce qui s'appelle la diamétralisation des trains, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des trains qui soient tous terminus dans une gare centrale, c'est de fusionner en quelque sorte du TER entre eux, par exemple, si je prends l'exemple chez nous, plutôt que d'avoir des TER qui feraient Cannes-Nice et puis d'autres TER qui feraient Monaco-Nice, eh ben on va faire des TER qui font Cannes-Nice-Monaco et qui traversent tout, et qui, quand ils vont traverser Nice, vont s'arrêter dans plusieurs gares. Le RER, donc c'est des trains fréquents, c'est des trains qui sont cadencés. Il faut aussi que ce soit des trains qui, ça commence tôt le matin, ça se termine tard le soir. Il ne faut pas qu'il y ait des périodes où il n'y ait pas de train. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils aient confiance dans le système pour se dire, peu importe le moment où ils ont envie de se déplacer, ils vont pouvoir le faire. Il ne faut pas que ça s'arrête le week-end, il ne faut pas que ça s'arrête les jours fériés. Il faut aussi qu'il y ait quand même une grande intégration tarifaire avec le reste du réseau. Donc c'est vrai qu'un peu le modèle là-dessus, c'est l'Île-de-France. Ça n'existe pas encore beaucoup dans les régions. Maintenant, ceci dit, il y a quand même beaucoup de régions qui s'orientent, hein, qui s'orientent vers ça depuis des années, mais elles le font avec des moyens limités. Donc maintenant que le président il a annoncé des RER partout, bah, faut espérer que ce soit assorti de moyens réels. Quand on lit dans le rapport du COI, ils font un espèce de panorama des projets qui existent en France. Et quand on cumule les besoins, on est déjà sur une vingtaine de milliards d'euros. Donc c'est voilà, il faut espérer que Macron, il n'est pas dit ça à la légère. Parce que sinon, s'il n'y a pas les 20 milliards d'euros, il n'y aura pas ces RER. Après, il faut aussi bien comprendre que quand on dit qu'on va réutiliser des infrastructures ferroviaires existantes, ça peut paraître très alléchant comme ça, mais dans la réalité, on ne pourra pas les utiliser telles quelles, les installations. Elles auront besoin d'être renforcées, d'être complétées. Parfois, il va falloir en créer de nouvelles. À Paris, quand ils ont fait le RER, ils ont creusé beaucoup de tunnels. Nous, à Marseille, par exemple, quand il va falloir faire le RER, eh bien, il va falloir creuser un nouveau tunnel ferroviaire sous Marseille, puisque la gare actuelle est en cul-de-sac. Donc voilà, c'est pas que de l'existant, c'est de l'existant plus autre chose. Et donc, il faut faire aussi attention que entre les promesses et la réalité, il peut y avoir un gouffre. Je vous donne juste un exemple qui va peut-être t'intéresser, puisque toi, t'es bien porté sur l'électricité. C'est que quand on va mettre plus de trains sur une voie ferrée, bah forcément, les trains ils vont consommer plus de courant. Ils vont demander davantage d'électricité à la caténaire, sauf que bah, il faut bien que la caténaire elle soit alimentée en électricité. Et ça, le réseau ferroviaire français, il est un petit peu sous-doté de ce point de vue-là. Les sous-stations électriques ne sont pas toujours assez puissantes, il n'y en a pas toujours assez sur le réseau. Donc le réseau, il est un peu en souffrance de ce point de vue-là. Et il est tellement en souffrance que pour que ça fonctionne, en fait, sur les trains, souvent sont installés des limitateurs de puissance, pour qu'un train donné n'appelle pas trop de puissance d'un coup, parce que sinon, ça ferait tout disjoncter. Un train qui n'a pas toute la puissance possible, ça veut dire que c'est un train qui n'accélère pas aussi vite qu'il pourrait, c'est un train qui ne va pas aussi vite qu'il peut, donc c'est un train qui n'est pas aussi performant qu'il pourrait. Et ça, c'est un cercle qui est un peu vicieux, finalement, parce qu'une fois qu'on prend en compte les faiblesses d'alimentation du réseau électrique ferroviaire, la logique, elle se transmet finalement aussi au matériel. On se dit, bah, puisque le réseau n'est pas très puissant, bah, le matériel, on peut aussi commander du matériel qui n'est pas très puissant, parce qu'en quelque sorte, ça ne sert à rien d'acheter une Ferrari pour rouler sur une petite route de campagne. Et donc, bah, par exemple, les trains qu'on a en région PACA, les régions de Zen, ils ont été d'emblée, c'est des trains qui ne sont pas aussi puissants que des trains des générations précédentes. Là où ça pose problème, c'est que le jour où le réseau électrique il sera renforcé pour le train, eh ben on se retrouvera avec du matériel qui, lui, par contre, ne sera pas capable d'exploiter les choses comme il faut. Donc on a des choses comme ça qui sont un peu désynchronisées. Et tu l'as dit tout à l'heure, comme les investissements ferroviaires, c'est des investissements sur le temps long, autant sur l'infrastructure que sur le matériel, parce qu'un matériel ferroviaire, c'est 30 à 40 ans, eh ben, du coup, on a des mauvaises décisions passées qui, finalement, qui ont été prises sur la base d'économies de bout de chandelle et qui, finalement, vont nous pénaliser aussi dans le futur. Et ça pourra concerner aussi les RER. C'est une problématique qui pourrait coincer.
Au vu de ce que tu nous dis, on continue de de se faire un petit peu de soucis, quoi, hein, parce qu'il y a des effets d'annonce qui sont une chose, mais derrière, il y a des problèmes physiques qui sont liés au matériel et aux infrastructures, hein, tu le dis. Il y a des choix techniques à faire, des choix aussi financiers. Tout ça, un effet d'annonce d'une phrase ou deux, on se rend bien compte que derrière, c'est pas si simple et que ça peut en rester qu'à un effet d'annonce si on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Donc, je le redis, hein, ce genre de sujet doit être étudié sérieusement et on ne doit pas jouer sur des effets d'annonce parce qu'on joue sur le temps, on joue sur de l'argent. Et tu viens de le dire, on termine, on peut très bien demain se retrouver totalement dépassé avec l'exemple que tu viens de donner. Et ben, pour rattraper le coup, ben, c'est peut-être 5, 10, 15, 20 ans qu'il faudra attendre. Alors, on a parlé, hein, d'une manière un peu générale. Si on se recentrait un petit peu sur notre région à travers le rapport du COI, donc au niveau des investissements dans notre région, est-ce que tu peux nous dire si on sera une région oubliée ou le contraire ?
Alors, la région, elle est ni oubliée ni pas oubliée, je veux dire. Elle est peut-être un peu au milieu, elle aussi. Donc, son grand projet ferroviaire, c'est la LNPCA, Ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur. Donc, c'est un projet qui, déjà précédemment, avait été découpé en quatre phases. Et donc, pour les deux premières phases, les phases 1 et 2, le calendrier n'est pas trop maltraité, puisque ce qui avait été prévu, c'est-à-dire une mise en service de 2030 à 2037, hein, ce qui est déjà un peu lointain, hein. Ça a été conservé. Donc c'est un projet qui représente 3,5 milliards d'euros d'investissement. Et pour se comparer à ce qui se passe dans d'autres régions, on va dire que l'horizon 2030-2037, c'est à peu près l'horizon des LGV Bordeaux-Toulouse-Dax ou des LGV Montpellier-Béziers. Ces projets de LGV, ils ont été un peu retardés par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment. Maintenant, là où il faut voir qu'il y a une subtilité, enfin une grosse subtilité, c'est qu'en PACA, ces phases 1 et 2 de la LNPCA, ce n'est pas une LGV, hein. C'est des aménagements sur la ligne existante. Alors, justement, pour instaurer des RER à Marseille, à Toulon et sur la Côte d'Azur, mais ce n'est pas une LGV. Il n'y aura pas de trains qui circuleront à grande vitesse au-delà de Marseille avec ces investissements-là. La LGV en elle-même, malheureusement, et là c'est une grosse déception de ce rapport, c'est qu'elle est reportée quasiment à 2050. Donc c'est encore plus tard que les calendriers qu'on nous annonçait jusque-là. Donc autant pour le RER, on va dire que les trois métropoles de la région PACA, donc Marseille, Toulon et Nice, sont assez sanctuarisées, parce que le chiffrage des phases 1 et 2 de la LNPCA, il figure directement dans le chiffrage des RER. C'est pas la même méthodologie qui a été appliquée pour Bordeaux et Toulouse, où ils ont des éléments de leur LGV qui s'appellent aménagement ferroviaire Sud-Bordeaux et aménagement ferroviaire Nord-Toulouse, qui restent intégrés à la LGV alors qu'il y en a besoin pour les RER. Ça n'a pas été comptabilisé pareil. Maintenant, quand on regarde les 3,5 milliards d'euros de la LNPCA par rapport à ce qui est prévu en totalité pour les RER de Bordeaux et Toulouse, bah, rapporté à la population, on est un peu moins bien servi que les autres. Donc c'est pas non plus une énorme victoire. Et puis bah, pour la LGV, comme j'ai dit, ça va être à nous de relancer le sujet, parce que là, du coup, on n'est pas du tout servi. Hein. On a, à horizon 2040, on a 0 euros, c'est facile, alors que dans le reste du sud de la France, ils ont des équipements qui sont prévus. Là où, de toute façon, le dossier, il est un petit peu mal en point dans la région, c'est que donc le dossier de LGV dans la région, c'est que ça consiste d'abord en une LGV, donc ce qui s'appelle la phase 3, Cannes-Sofia-Nice, et puis en phase 4, aller de Aubagne à Toulon, et puis des Arcs à Cannes. C'est un projet qui est très complexe, à la fois pour l'environnement, pour l'urbanisation, et puis finalement qui n'est pas si performant que ça, surtout si on tient compte désormais des phases 1 et 2, qui vont permettre d'avoir des RER sur la Côte d'Azur, à Marseille et à Toulon. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même que les gens se remettent autour d'une table et débattent de ce qu'ils veulent. Et ce qui va devenir important après les RER, c'est vraiment de rapprocher Marseille et Nice. Parce que quand on regarde sur une carte Marseille et Nice, alors les gens qui voient ça de Paris, ils se disent Marseille et Nice, c'est à côté. Effectivement, c'est 158 km à vol d'oiseau Marseille-Nice. Mais c'est 2h40 en train. Donc ça veut dire que tu prends un pigeon voyageur qui partirait en même temps que le train de Nice, le pigeon voyageur, il vole à 60 km/h, ben, il est arrivé avant ton train à Marseille. Bon, peut-être que si on veut réfléchir à un projet de LGV dans la région, bon, le COI ne va pas jusque-là, hein, mais il faudra sans doute qu'on pense à un projet entre raccourcir vraiment le trajet, je dirais, géographiquement, et aller, donc par exemple, entre Aubagne et les Arcs, s'il y avait une LGV de 66 km, le trajet il pourrait être raccourci de 45 minutes et on pourrait espérer de faire Marseille-Nice en 1h20. L'ambition, peut-être pour replacer un peu la région PACA, un peu nationalement, au niveau du ferroviaire, je pense que ce qu'on doit considérer, c'est un peu l'axe de Bordeaux à Nice. Donc Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice. Pour peut-être un peu s'extraire des logiques un peu centralisatrices, de toujours tout pour l'Île-de-France, là on a quand même un certain nombre de grandes villes au sud de la France qui mériteraient d'être bien reliées, qui sont concernées par plusieurs projets, donc il y a les LGV Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Marseille-Nice, et on peut avoir une belle transversale sud ferroviaire qui se dessine. Ça pourrait être un projet intéressant à planifier pour la France. Et plus proche de nous, temporellement de nous sur ce sujet-là, il y a la question du renouvellement du matériel ferroviaire. Actuellement, les trains qui circulent entre Bordeaux et Marseille, c'est des vieux trains, c'est les voitures corail qui datent de la fin des années 70, qui sont vraiment à bout de souffle. Et le rapport indique d'ailleurs très clairement que d'ici à très proche horizon, donc on parle de 2025-2028, le matériel ne pourra plus circuler. Donc ça veut dire que la ligne pourra être supprimée et qu'il n'a pas encore été décidé de financer les investissements pour avoir du matériel neuf. Donc ça, il faut que ce soit une priorité. Et j'en ajouterai une seconde, c'est qu'actuellement la ligne qui s'appelle la Transversale Sud, elle ne va que de Bordeaux jusqu'à Marseille. Donc nous, sur la Côte d'Azur, on n'est pas concernés, alors que dans le passé, peut-être tu te rappelles que si tu partais en vacances à Toulouse ou Bordeaux depuis Antibes, avant tu pouvais disposer de train direct, maintenant ça n'existe plus. Je pense aussi que ça fait partie du service ferroviaire que de réavoir des choses comme ça qui existaient dans le passé et qui pouvaient fonctionner. Peut-être je peux faire un petit point aussi qui est plus local sur notre département, du coup, sur nos départements alpins, la ligne des chemins de fer de Provence. Bon, celle-là, fort malheureusement, peut-être que certains vont trouver que c'est une trop petite ligne, mais elle ne figure pas dans le rapport du COI. Pourtant, il y aurait des choses à dire, parce que donc c'est une ligne qui va de Nice à Digne par la vallée du Var et puis ensuite au travers des Alpes de Haute-Provence, qui actuellement est interrompu avant Digne, hein, parce que justement on voit que y a un des tunnels de la ligne est coupé, donc comme quoi on voit que quand les infrastructures ne sont pas assez financées ou entretenues, bah, ça provoque des coupures de ligne. Moi je pense même que cette ligne-là, elle devrait aller plus loin que Digne, et notamment rejoindre le réseau ferroviaire existant dans la vallée de la Durance. Nous, en tant qu'habitants de la Côte d'Azur, ça veut dire que ça nous ferait une ouverture vers les Alpes et qu'on ne tombe pas dans un cul-de-sac en arrivant à Digne. Je pense aussi que côté niçois, puisqu'il est question de RER, je pense qu'il faudrait réfléchir cette ligne-là. En fait, quand on voit ce qu'est fait dans Nice, on s'aperçoit que c'est presque une bénédiction d'avoir cette ligne-là. Donc bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut contrer les projets de privatisation à la Estrosi, enfin, qui voudraient récupérer la partie de la ligne dans Nice pour exclure le reste de la ligne. Mais par contre, que cette ligne, dans sa totalité, dans Nice, il faudrait, au sein de la Régie régionale des transports, parvenir à en faire un vrai RER qui profite bien de toutes ces gares qu'il y a dans la métropole de Nice, qui souvent sont le moyen le plus rapide de se déplacer. Par exemple, il y a très peu de gens qui le savent, mais les gens, quand ils vont au stade Alliance Riviera à Nice en partant du centre de Nice, bah, les chemins de fer de Provence, c'est la solution la plus rapide d'y arriver. Par la route ou par le tram, on n'y arrive pas aussi vite. Voilà, donc c'est des choses qui sont un peu développées. Peut-être aussi que côté Nice, il faudrait réfléchir à des pour en faire un vrai RER. Cette ligne, elle arrive actuellement à Nice dans une gare qui est un peu isolée du reste du réseau, qui n'est même pas directement connectée au tram, qui est encore moins connectée au réseau SNCF. Voilà, côté Nice, il faudrait travailler à ces connexions. Je pense que si on avait de l'ambition, on pourrait dire, ben voilà, cette ligne-là, on va la prolonger jusqu'à la gare SNCF, puis pourquoi pas jusqu'au palais des expositions derrière. Voilà. Pour ce qui est du RER à Nice aussi, je pense qu'il ne faudrait pas se contenter donc de ce qui est prévu avec la LNPCA, à savoir l'axe Cannes-Nice-Monaco. On a aussi une autre ligne qui est très intéressante, donc qui est la ligne qui passe par la vallée des Paillons, donc ensuite qui va à Breil-sur-Roya. Cette ligne-là aussi a des potentialités pour du RER qu'il faut travailler. Et notamment, ça pourrait même être intéressant que cette ligne-là soit aussi directement connectée à la ligne du littoral, que par exemple des gens qui partent de Cannes ou d'Antibes ou de Saint-Laurent-du-Var, ils puissent aller aussi directement vers les gares qui sont desservies par la ligne, donc dans la vallée du Paillon, que ce soit Drape, la Trinité, etc., etc.
Oui, Rémi, nous arrivons en fin d'émission. Je crois que tu as réussi à faire une synthèse très intéressante en démarrant de ce rapport, qui est un rapport national, mais tu as été encore plus loin puisque tu es rentré dans le détail au niveau de la PACA. Et là, tu viens de terminer en donnant des pistes pour notre département. On va encore parler, on refera encore des émissions sur les transports, c'est très intéressant. Moi, j'engage les auditrices et les auditeurs de Radio Agora Côte d'Azur de se préoccuper de ce sujet-là et éventuellement de contacter le MNL 06 ou de contacter les élus pour que, après les effets d'annonce, on rentre un peu plus concrètement dans le sujet d'une manière technique et financière. On te remercie, Rémi, pour cette présentation. On donne rendez-vous aux éditrices et aux auditeurs de Radio Agora Côte d'Azur le mois prochain. On se retrouvera pour un autre sujet. Je vous remercie. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.